You're with SBS Radio.
Les grands titres de ce dimanche, le sommet de Katowice sur le climat, la COP24 et un accord final arraché par les pays membres. En Australie, le plan du Labour visant à construire 250 000 logements abordables s'il est élu aux prochaines élections fédérales. Et puis acte 5 des manifestations du mouvement des Gilets jaunes hier en France, avec une faible participation, moins de monde et moins d'arrestations. Le sommet de Katowice sur le climat, la COP24 et un accord final arraché par les pays membres sur les règles d'application de l'accord de climat de Paris signé en 2015. Le point avec Agnès Rougier pour Radio France Internationale.
Et pour la première fois dans l'histoire des conférences climat, le président de la COP24, Mikhail Kourtsika, a invité tous ceux qui ont participé à l'élaboration du texte à monter sur l'estrade pour une grande photo de famille. Alors on aurait pu penser que la défection des États-Unis ou les réticences de l'Arabie Saoudite allaient bloquer le processus multilatéral des Nations Unies, où seul le consensus permet l'adoption d'un accord, mais cela n'a pas été le cas. Concernant les financements pour le climat, les pays en développement ont obtenu ce qu'ils souhaitaient, la possibilité d'évaluer leurs besoins et en face, un cadre clair qui permettra d'analyser les engagements financiers et leur utilisation a posteriori. Ils ont aussi obtenu l'engagement que le fonds vert pour le climat alimenté par les pays industrialisés serait renfloué en 2019 à hauteur de 10 milliards de dollars. Mais ces victoires ont eu pour contrepartie des concessions comme l'inclusion à minima du rapport du groupe de scientifiques pour le climat, le GIEC, qui préconise de contenir l'augmentation de la température à 1,5 degré. Et si la compensation des pertes et dommages dues au réchauffement reste mentionnée, il n'y a aucun engagement des pays industrialisés. Mais pour les représentants des pays rencontrés au sortir de la conférence, cet accord est la boîte à outils qui va leur permettre de travailler dans leurs pays respectifs.
Agnès Rougier pour RFI en France. Maintenant, acte 5 des manifestations du mouvement des Gilets jaunes hier en France, avec une faible participation, moins de monde et moins d'arrestations. Il pleuvait aussi et il y avait un vent glacial. Nicolas Falaise pour RFI a rencontré quelques Gilets jaunes à Paris. Ils étaient quelques 3000 à défiler.
Jérémy est arrivé tôt ce samedi. Le jeune intérimaire a l'impression d'avoir raté le rendez-vous de la semaine dernière, car il avait alors été interpellé dès son arrivée à Paris. Cette fois-ci, Jérémy est parvenu au pied de l'Arc de Triomphe, où seules quelques dizaines de gilets jaunes affrontent le vent glacial.
Je pense que même si le mouvement s'essouffle, la moindre petite chose, les gens remettront leurs gilets jaunes et reviendront manifester. On ne laissera plus rien passer, quoi.
Le slogan « Macron démission » bientôt suivi d'une Marseillaise. Nous sommes à présent devant l'Opéra Garnier à Paris où plusieurs centaines de gilets jaunes sont rassemblés dans le calme face à un impressionnant dispositif policier. Ici comme sur les Champs-Élysées, beaucoup de commerces sont restés fermés, leurs vitrines protégées par de grands panneaux de bois, une conséquence des scènes de pillage qui ont eu lieu samedi dernier et que déplore Anthony. C'est son quatrième samedi de manifestation à Paris.
À chaque manifestation, maintenant, il y a des dégradations. Effectivement, ça peut nuire au mouvement, mais les citoyens ont bien compris qu'il y avait une différence entre le citoyen en colère et les casseurs. Ce qui est dommage, c'est que les forces de l'ordre ne font pas trop le distinguo entre les deux. On chope plus facilement le gilet jaune parce qu'il court moins vite. C'est dommage qu'on ne s'en prenne pas aux bonnes personnes.
Comme la plupart des gilets jaunes présents à Paris ce samedi, Anthony estime que les gestes annoncés par Emmanuel Macron en début de semaine sont loin de répondre aux attentes du mouvement.
C'était le reportage de Nicolas Falaise. Caroline Herbin, 49 ans, est membre des Gilets jaunes à Montauban, dans le sud de la France. Elle est au chômage et elle a marché hier dans sa ville.
La marche s'est très bien passée. On est retourné à notre QG, à notre rond-point qu'on a depuis le 17. Et là, on est accueillis avec des voitures de gendarmes de partout, partout, partout. Il y en a ras-le-bol, on se fait gazer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Sur Paris, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont fait arrêter, qui n'ont pas pu rentrer dans Paris. Je pense que la mobilisation est intacte. Pour moi, on ne peut pas donner de chiffres. Je sais que ça se mobilise beaucoup. Les gens, ils nous soutiennent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même s'ils ne sont pas dans la rue, mais ils nous soutiennent. Après, est-ce que parce que c'est le temps, il pleut, il fait froid, peut-être aussi. Samedi prochain, on refait une marche. Ça va continuer, ça c'est sûr. Ça ne s'essoufflera pas. Peut-être que ça sera un peu au ralenti à cause des fêtes, mais une fois les fêtes passées, je pense que ça reprendra. Mais au mois de janvier, ça repartira de plus belle.
En Autriche, il y avait des manifestations aussi. Les opposants fêtaient à leur manière les 1 an du gouvernement, le gouvernement de la droite et l'extrême droite. Parmi les milliers de manifestants, certains ont opté pour le sifflet, d'autres pour le gilet jaune. Reconnaissance de Jérusalem-Ouest comme la capitale d'Israël par l'Australie. Les Palestiniens condamnent cette décision. On écoute Anan Ashraoui.
Well, this decision, regardless of the fact that it talks about West Jerusalem, is an irresponsible decision that constitutes a negative interference in the dynamic of the region and in the requirements of peace and justice.
On écoute maintenant l'analyse du professeur de sciences politiques David Kamrou pour Radio France Internationale.
C'est une décision surtout de politique interne en Australie. En fait, l'actuel premier ministre Scott Morrison, qui est un conservateur évangélique fondamentaliste, qui est un admirateur de Donald Trump, et il essaie de prendre Trump comme modèle pour sa campagne, parce que l'année prochaine, il y aura des élections législatives et les conservateurs, le Parti libéral, selon les sondages, est très menacé. Il y a un important lobby, disons, pro-Israël en Australie, mais il y a également un certain nombre de la population qui sont d'origine arabe et plutôt musulmane. Et aussi, c'est compliqué par le fait que le grand voisin de l'Australie est l'Indonésie. Donc, faire un geste symbolique de ce genre-là me semble d'une bêtise diplomatique totale.
David Kamrou, prof de sciences politiques. Israël ne cache pas sa déception car l'annonce australienne s'agit seulement de la partie ouest de la ville de Jérusalem et il n'est pas question de transfert de l'ambassade australienne de Tel Aviv à Jérusalem, comme l'explique Michel Paul pour RFI.
Israël réagit froidement à l'annonce australienne. Les responsables israéliens ne cachent pas une certaine déception de la décision de Canberra de ne reconnaître que la partie occidentale de Jérusalem en tant que capitale d'Israël. Cela va dans la bonne direction, mais nous nous attendions à mieux, affirme un haut fonctionnaire sous couvert d'anonymat. Et à l'issue du Shabbat, le ministère israélien des Affaires étrangères s'est contenté d'un communiqué laconique. Emmanuel Narchon, porte-parole du ministère.
Israël considère la décision du gouvernement australien d'ouvrir un bureau de commerce et de défense à Jérusalem comme un pas positif. Israël félicite le gouvernement australien pour sa position regardant les sanctions sur l'Iran et aussi pour sa position pro-israélienne aux Nations Unies ainsi que son engagement contre l'antisémitisme.
Le président de la Knesset, le Parlement israélien, Yuli Edelstein, se déclare surpris de la décision australienne et Ophir Akounis, le ministre israélien de la Science et de la Technologie, remercie le Premier ministre australien Scott Morrison, mais il ajoute que Jérusalem tout entière est capitale d'Israël et cela depuis plus de 3000 ans.
En Australie, le gouverneur de la Nouvelle-Galles du Sud, David Hurley, sera le prochain gouverneur général de l'Australie. David Hurley est devenu gouverneur de la Nouvelle-Galles du Sud en 2014, après 42 ans de service dans l'armée australienne et il a passé les 3 dernières années de sa carrière en tant que chef des forces de défense. David Hurley va assumer ses fonctions en mars prochain. On l'écoute.
We know though that if I was to retire, the most significant part of our current role that we would miss would be the opportunity to visit and meet the multitude of extraordinary Australians in our community. My commitment to the people of Australia is that we will fulfil our responsibilities in the same full-hearted manner that I've worked in New South Wales.
Voilà, c'était le prochain gouverneur général de l'Australie, David Hurley. Les locataires à faible revenu économiseront des centaines de dollars par mois en vivant dans de nouvelles maisons dans le cadre d'un plan du Labour visant à construire 250 000 logements abordables. Le dirigeant du Parti travailliste, Bill Shorten, à la conférence nationale du Labour, a présenté son plan de 6,6 milliards de dollars sur 10 ans. Selon lui, un futur gouvernement travailliste paiera 8 500 dollars par an aux investisseurs qui construisent de nouvelles maisons à condition de les proposer à 20% de moins du loyer du marché aux Australiens à revenus faibles et moyens.
We can pay for this $6.6 billion investment in jobs and housing and productivity in the future of our cities because we've made the big reform decisions. This is a boost for renters and for the livability of our growing suburbs and our rural and regional towns.
6 personnes ont été blessées après une explosion dans une entreprise dans l'ouest de Sydney. L'explosion a eu lieu dans un garage situé dans la banlieue industrielle de Smithfield. James Gray, du service d'ambulance de la Nouvelle-Galles du Sud, a déclaré que, heureusement, cet incident n'a pas causé plus de dégâts.
They got burns to their upper body and they also have burns to their airway, which is a really serious condition because the airway can close up, which obviously restricts their breathing. This incident could have been a lot worse and we're quite lucky that there are only 6 patients involved.
En Afrique, près de 300 prisonniers anglophones ont été libérés de prison au Cameroun sur ordre du président du pays. Plus de 950 Camerounais anglophones ont été arrêtés dans les régions francophones pour avoir soutenu les séparatistes qui combattaient l'armée camerounaise dans le pays. Le président Paul Biya a ordonné au tribunal militaire du pays de suspendre les poursuites contre des centaines de détenus. Et un avocat des détenus a déclaré qu'il s'agissait d'un pas important dans cette direction.
These soldiers lost their life and many civilians also. It is not what a person in a nation can accept. What the head of state has decided, it is very important because it can lead us to the peace that every Cameroonian wants.
Les dirigeants d'un bloc des partis de la gauche en Amérique latine se sont rencontrés à Cuba. Le bloc, connu sous le nom d'ALBA, célèbre son 16e anniversaire. Le président vénézuélien Nicolas Maduro, le président nicaraguayen Daniel Ortega et le président bolivien Evo Morales figuraient parmi les dirigeants présents. De nombreux pays des Caraïbes sont également membres. Le président cubain Miguel Díaz-Canel a déclaré que le bloc devrait se tenir aux côtés du Venezuela et du Nicaragua pour faire face aux crises et maintenir la pression du monde extérieur.
ALBA is an untouchable bastion against reactionary forces trying to isolate Venezuela and Nicaragua. We need to defend it against the winds and the waves targeting the alliance, provide resistance, dialogue, and fight to remain unified.
Et pour clôturer ce journal en France, ce sont les rééditions d'albums cultes ou les coffrets de luxe qui font la une comme possibilité de cadeau de Noël. Explication de Théo Meunier pour RFI.
Johnny Hallyday, David Bowie, Michel Sardou ou Queen, tous ont au moins une réédition ou coffret dans le dernier top 50 des ventes d'albums physiques, autrement dit hors streaming et téléchargement. Alors boîte au trésor ou édition à la plus-value contestée, ils reviennent en nombre dans les bacs. Face au catalogue illimité des plateformes de streaming, les maisons de disques misent sur l'attachement des fans aux objets, pour qui ces coffrets font figure de pièces indispensables. De 25€ pour la réédition du Kind of Blue de Miles Davis à 132€ pour le coffret du White Album des Beatles, quand ils en ont les moyens, les amateurs ne compte pas. Chez Universal, par exemple, 15 personnes travaillent au développement de ce type de projet pour un total de 550 vinyles et 350 CD réédités cette année. De quoi, pour son directeur commercial Antoine Benichou, transmettre de génération en génération des œuvres qui risqueraient de disparaître. De quoi également faire naître des idées cadeaux dans une période de fin d'année où le marché du disque réalise environ 40% de son chiffre d'affaires annuel.
Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie, Perth maximal de 26 degrés, Adélaïde 24, Melbourne 24, Hobart 25, Canberra 28, Sydney 29, Brisbane 28, Cairns 35, Darwin 34 et à Alice Springs maximal de 38 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche, le sommet de Katowice sur le climat, la COP 24 et un accord final arraché par les pays membres. En Australie, le plan du Labour visant à construire 250 000 logements abordables. Fin du journal, restez avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.